Voilà. Gloire à notre Dieu. Nous étudions dans la congrégation depuis, quoi, 3 semaines déjà, dans la grâce du Seigneur, cette thématique qui s'intitule L'argent. Aussi simple que cela, l'argent. L'étude de cette thématique nous a amené à regarder, à commencer à regarder ce que la Bible enseigne au sujet de l'argent. Ce que la Bible enseigne au sujet de l'argent. Nous avons vu beaucoup de choses que la Bible enseigne au sujet de l'argent sur lesquelles je ne reviendrai pas ce soir. Et mercredi dernier, chemin faisant, nous avions traité de ce sujet, disant ce que la Bible enseigne sur la manière dont le chrétien ou bien le peuple de Dieu doit utiliser son argent s'il veut s'assurer de glorifier Dieu dans l'utilisation, bien à travers l'utilisation de son argent. Je vais simplement vous donner quelques éléments de rappel concernant ce qui a été enseigné mercredi dernier, ce que le Saint-Esprit nous a rappelé mercredi dernier dans le cadre du sujet disant ce que la Bible enseigne sur la manière dont le chrétien doit utiliser son argent. Ce que nous avions regardé mercredi, c'était que Dieu veut que le chrétien utilise son argent pour subvenir aux besoins des siens, aux besoins de sa famille, hein, à la lumière de 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Et je ne vais même pas lire le passage. Nous avons vu que la Bible enseigne que le chrétien doit utiliser son argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Nous avons vu aussi que Dieu veut que le chrétien paye ses dettes, selon 2 Rois chapitre 4, le verset 7. Nous avons vu que la Bible enseigne que le chrétien doit se soucier de payer ses dettes. Nous avons vu également que Dieu veut, ou que la Bible enseigne, que le chrétien doit utiliser son argent pour aider les autres, particulièrement les frères dans la foi. Selon 1 Jean chapitre 3, le verset 17, Actes chapitre 2, les versets 44 à 47, et vous aurez compris, ce ne sont que là quelques références bibliques sur ce point-là, parce qu'il y en a beaucoup. Nous avons aussi vu que Dieu veut que chaque chrétien soit un gérant fidèle, un gérant responsable, un économe fidèle, un économe ou bien une économe fidèle, un intendant fidèle pour Dieu dans la gestion ou bien dans l'administration de son argent, qui est, soit dit en passant, rappelons-le haut et fort, avant tout l'argent de Dieu. Hein? L'argent, nous avons réglé ça dès la première séance, à savoir que l'argent que vous et moi nous possédons ne nous appartient pas, c'est l'argent de Dieu. Voilà pourquoi Dieu se soucie de la manière dont nous gérons ou bien dont nous administrons cet argent-là qu'il nous confie, mes frères et mes sœurs. Nous avons vu aussi que Dieu veut que chaque chrétien, ou bien que le chrétien, que la chrétienne, que son peuple, le troupeau de son pâturage, utilise son argent pour l'œuvre de Jésus-Christ à la lumière, entre autres, de Nombre chapitre 18, les versets 12 à 13, frères et sœurs, mes bien-aimés. Nous avions regardé ces points-là, nous les avions détaillés en détail. Aujourd'hui, je vais traiter dans le cadre de la thématique de ce sujet qui dit donner à Dieu deux points, hein, j'ajoute deux points, donner à Dieu quelques principes bibliques, hein, donner à Dieu quelques principes bibliques. C'est de ça qu'il sera question ce soir, dans la grâce du Seigneur. Mais avant, j'aimerais apporter un complément d'enseignement par rapport au sujet de mercredi dernier. Il y avait une suite par rapport au sujet de mercredi dernier. Nous allons regarder cette suite-là, nous allons l'apporter avant que je puisse enchaîner avec le sujet de ce soir que je viens de vous relater, disant donner à Dieu quelques principes bibliques. Pour apporter le complément dont je viens de parler par rapport à mercredi dernier, je vais revenir à cette servante-là, à cette servante-là, veuve de Sarepta. Je vais commencer par revenir à cette servante-là, ok? Je sais que je vous en ai déjà parlé, mais c'est une manière d'introduire le complément d'information ou bien de formation que je veux vous apporter de la part du Seigneur ce soir. Nous avons parlé de la veuve de Sarepta pour illustrer un fait important. Et on va continuer à faire ça dans la congrégation, dans le cadre du traitement de ce thème. Pour illustrer un élément important qui est ceci, à savoir que donner, c'est une question de foi. C'est une question de conviction. C'est ça qu'on disait quand on amenait la veuve de Sarepta. Je vais parler de ça aujourd'hui et je vais continuer à parler de ça, si Dieu veut, bientôt, si le Seigneur me prête vie, me conserve le souffle de vie. 1 roi 17, versets 8 à 16. Élie appela la veuve, l'oratoire, et lui dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Vous connaissez très bien le contexte, peut-être mieux que votre frère, votre serviteur. Le verset 11 nous dit que la femme alla en chercher. Élie l'appela de nouveau, dit la parole de Dieu, et lui dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. La veuve répondit au serviteur de Dieu, à l'homme de Dieu, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, dit la femme, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Donc, j'avais attiré votre attention sur le fait que la femme, dans sa tête, dans son esprit, compte tenu de l'environnement dans lequel elle évoluait, compte tenu du contexte financier, socio-économique dans lequel elle évoluait, elle croyait que son sort était scellé. Elle désespérait de vivre au-delà de la journée où elle parlait. Et nous voyons au verset 13, Élie qui lui dit, frères et sœurs, mes bien-aimés, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et il dit, mets-moi en premier. Mets mon instruction en premier. mets mon enseignement en premier. Obéis à mon instruction, obéis à mon enseignement, écoute mon enseignement, mets mon enseignement en pratique. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Mets-moi en premier. Vois-moi en premier. Le contexte ne permet pas, sans une foi solide, sans une conviction solide, voilà ce que votre serviteur appelle donner à Dieu, c'est une question de conviction et de foi. Et il y dira, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Voilà la promesse de Dieu que Élie partage avec la femme. Et elle a cru à cette parole. Déjà, elle avait identifié Élie comme étant l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel. Il parlait du Dieu de Élie, déjà, frères et sœurs. Et au verset 15, l'oratoire, peuple du Seigneur, nous avons vu ensemble que la femme alla, elle fit selon la parole de l'Éternel. Je prie que le Seigneur nous fasse la grâce, à vous et à moi, que nous puissions continuer à faire selon la parole de l'Éternel. Elle fit selon la parole de l'Éternel. Voilà pourquoi j'enseignais dans la congrégation dimanche dernier, je disais que je prie que le Seigneur nous fasse la grâce, eh bien, de vivre, hein, dans l'année 2024 du Seigneur, qu'il vient de nous accorder par grâce, avec cette conviction, cette volonté, cette passion, eh bien, de faire de la recherche du royaume de Dieu notre priorité. Cette femme a vécu l'évangile avant la lettre. Ce qu'elle fait là, elle a cherché premièrement le royaume de Dieu. Elle a entendu la parole de Dieu, elle a entendu la promesse de Dieu, eh bien, et elle s'est laissée aller, frères et sœurs, dans un élan de foi, dans un acte de conviction, dans un acte de courage, dans un acte de détermination. Elle s'est laissée aller, elle a cru à la parole de l'Éternel, frères et sœurs. Et pendant longtemps, la Bible dit, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, pendant longtemps. Hein, une personne qui croyait qu'elle allait mourir il y a peu, ben quoi, peut-être maximum une journée, 2 journées. Le texte dit maintenant, et pendant longtemps, pendant toute la durée, probablement minimalement, pendant toute la durée de la famine, du mauvais temps, elle eut pendant longtemps de quoi manger. Et elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Je prie que le Seigneur nous fasse la grâce d'avoir à manger pendant longtemps, d'avoir toujours du pain à mettre sur la table. Frères et sœurs, mes bien-aimés. Au verset 16, la parole de Dieu dit, la farine qui était dans le pot ne manqua point. Hein? Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée, Dieu l'a fait selon sa foi. Dieu l'a fait selon sa foi. Dieu a suscité l'abondance. Dieu a suscité la richesse. Au milieu de la pauvreté de cette femme, Dieu a transformé, hein, sa pauvreté en richesse à la faveur d'un acte de grâce, certainement, mais on comprend que la femme a manifesté sa foi. Elle a cru et elle a vu la gloire de Dieu, frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre moyen de voir la gloire de Dieu dans nos finances que de croire à la parole de l'Éternel et d'agir selon cette parole. Frères et sœurs, mes bien-aimés, elle alla et elle fit selon la parole de l'Éternel. Quand vous allez prier pour moi tout à l'heure, dans vos prières personnelles, dans les temps de jeûne, quand vous priez pour votre serviteur, pour votre pasteur, s'il vous plaît, Demandez à Dieu que votre serviteur fasse selon la parole de l'Éternel. Le jour où je fais selon la parole de l'Éternel, affaire réglée. Le jour où un homme ou une femme ou une église ou une famille fait selon la parole de l'Éternel, croyez-moi, affaire réglée. Ou cas malade, affaire réglée. Ou cas qu'on ait des mortalités, des cas de mortalité, puis affaire réglée pareil. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de parole. C'est un Dieu de promesses. Il dit et il fait, frères et sœurs. En agissant ainsi, frères et sœurs, je vous avais dit que la femme donnait à Dieu la première place dans ses finances. Elle donnait à Dieu la première place dans ses avoirs. Elle donnait à Dieu la première place dans sa vie. Elle donnait à Dieu la première place dans ses avoirs. Et elle donnait à Dieu la première place ultimement dans son cœur. Frères et sœurs, le texte est clair. Fais pour moi d'abord. Prépare pour moi d'abord. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. D'abord signifie en premier. Hein? Vous le savez mieux que moi. D'abord suggère la priorité. Hein? D'abord. Et l'obéissance de la femme, frères et sœurs, a valu son pesant d'or, en ce que la farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. La veuve de Sarepta a eu une révélation également. Cette servante du Seigneur a appris que ceux qui donnent à Dieu la première place dans leur vie, c'est ce que je vous avais dit mercredi dernier, ne manquent jamais du nécessaire. Au contraire, ils peuvent être dans l'abondance. Le pot de la farine et la cruche et l'huile de la cruche ne furent jamais en manque. Elle avait de la provision en abondance, comme je vous avais dit, pour au moins jusqu'à la fin de la famine. Et elle pouvait subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Voici maintenant le complément d'information. Les Israélites, frères et sœurs, étaient tenus de donner à Dieu, d'après ce que nous avons lu dans Nombre 18, versets 12 à 13, ils étaient tenus, le peuple de Dieu, le troupeau du pâturage de l'Éternel, étaient tenus de donner à Dieu les prémices de leur récolte, à savoir ce qu'ils avaient de meilleur. Certaines fois, ils l'ont fait, d'autres fois, ils ne le faisaient pas. Ils n'étaient pas réguliers dans leur relation avec Dieu. Ainsi, Dieu leur a dit dans Malachie qu'il était mécontent de leur conduite. Dieu leur a dit dans Malachie qu'il n'était pas d'accord avec eux, qu'il n'était pas content avec eux, parce qu'ils n'étaient pas constants dans leur façon de donner à Dieu ce qu'ils savaient qu'ils devaient donner à Dieu. Un jour, ils donnaient à Dieu, un autre jour, ils ne donnaient pas à Dieu. Un jour, ils donnaient à Dieu ce qu'il fallait qu'ils donnent à Dieu, et un autre jour, ils ne donnaient pas à Dieu ce qu'ils savaient qu'ils devaient donner à Dieu. Ils n'étaient pas constants dans leur obéissance, dans leur vie de foi, dans la manifestation de leur conviction, dans la grâce, dans la fidélité, dans la puissance, dans la souveraineté et dans la grandeur de Dieu. Un jour, ils croyaient et ils donnaient. Un autre jour, ils ne croyaient pas, ils ne donnaient pas. Ou alors, ils donnaient, mais ils donnaient ce que eux voulaient donner et non ce que Dieu s'attendait à ce qu'ils donnent. Voilà ce que le français appelle l'inconstance. Qu'est-ce que Dieu veut qu'il donne? Dieu veut qu'il donne des animaux saints en sacrifice à Dieu. Et eux, qu'est-ce qu'ils donnaient? Ils donnaient à Dieu des animaux aveugles, des animaux boiteux, des animaux infirmes. Ils donnaient à Dieu le pire de leur bétail, frères et sœurs. Et quand ils donnaient à Dieu le pire de leur bétail, eux, ils se réservaient les meilleures bêtes pour eux-mêmes et par voie de conséquence, sans surprise, ils se privaient par le fait même des bénédictions de Dieu. C'est un texte qui est très connu de l'Assemblée, mais relisons-le ensemble. Malachie chapitre 1, les versets 10 à 14. Et les offrandes de votre main, c'est Dieu qui parle, hein? Et les offrandes, par le truchement de Malachie, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Malachie 1, verset 10 à 14. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, dit Dieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des offrandes pures, toujours en mon honneur, en son honneur. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Dieu rappelle, hein, je vous l'avais dit la fois passée, hein, sans parler de Malachie 1, verset 10 à 14, Dieu rappelle qu'il ne veut pas de ce qu'il demande. Il demande ce qu'il demande simplement pour la bénédiction de son peuple, pour mettre son peuple à l'épreuve, pour éprouver, pour tester la conviction, pour tester la foi de son peuple. C'est ce qu'il est en train de redire ici, sous d'autres mots, dans un autre contexte. Car grand est mon nom parmi les nations. Ailleurs, il dira que l'or et l'argent m'appartiennent. Et alors, frères et sœurs, Dieu dit, mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites qu'elle fatigue et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, ce qui est boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Il y a un point d'exclamation après le verset 13, hein? Et ce sont les offrandes que vous faites. Dieu s'étonne de l'agissement de son peuple à son égard. Dieu est saisi, Dieu est stupéfait devant l'agissement de son peuple à son égard. Ici, on parle d'animaux. Ici, on parle d'animaux, OK? Dans notre contexte, ça pouvait être mais un dernier, un vieux dollar, un vieux 2 dollars, un 2 dollars. Un 50 sous que le chrétien n'a pas besoin, dont le chrétien n'a pas besoin. Et quand il a fini de faire tout ce qu'il a fait, puis il apporte à Dieu. C'est l'équivalent de animaux chétifs ou animaux boiteux, animaux aveugles, hein, pour aujourd'hui. OK? C'est l'équivalent d'un dernier 2 dollars qui était là, puis le chrétien dit, ah, ça, c'est pour mon Dieu. Par exemple, l'oratoire, vous comprenez ça très bien. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains? Dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Faites ce que le Seigneur continue de vous en préserver, de nous en préserver. Et mon nom est redoutable parmi les nations. Ne croyons pas que cette parole est valable pour l'Ancien Testament. Ce n'est pas des bêtes à donner, mais c'est l'offrande à donner. Si vous voulez l'appeler dîme, appelez-le dîme. Si vous voulez l'appeler offrande, donc appelez-le comme vous voulez. Mais ça tient encore pour le Nouveau Testament, frères et sœurs. On parlera de dollars cette fois-ci et non d'animaux. On parlera de dollars, on parlera de cents rouges, on parlera de 25 sous versus un revenu important de 100 000, de 200 000, de 50 000. Puis j'apporte à Dieu 1 dollar, 2 dollars. À la lumière de ce passage, frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ Jésus, Force est de constater que les Israélites n'ont pas montré qu'ils avaient une grande foi, une grande confiance, comme la veuve de Sarepta en Dieu. Ils n'ont pas montré non plus, frères et sœurs, qu'ils avaient un très grand respect pour Dieu, une très grande passion pour Dieu, une très grande appréciation pour le nom de Dieu, frères et sœurs, lorsqu'ils se plaisent à offrir à Dieu des sacrifices inacceptables, l'oratoire. Ils le savaient très bien. Ils connaissaient leur Bible. La loi de Moïse leur interdisait de présenter à Dieu des animaux aveugles, des animaux boiteux ou malades. Et cette même loi empêchait au peuple de Dieu, frères et sœurs, d'apporter des animaux à Dieu qui ne peuvent pas couvrir le péché et la culpabilité, frères et sœurs, parce que ça prenait un animal sans défaut. Ils le savaient, Exode 12, le verset 5, Lévitique 22, le verset 17 à 25, Deutéronome 17, le verset 1er. Ce sont autant de textes bibliques qui parlent de la qualité de l'offrande à offrir à Dieu en sacrifice. Mais ils ont passé outre de ces choses. Probablement, ils ont philosophé, ils ont opiné, ils ont jasé là-dessus, ils ont fait des raisonnements humains là-dessus. Est-ce que Dieu, est-ce que le temple en avait besoin? Est-ce que c'était encore nécessaire? Est-ce que le coffre du temple n'en était pas déjà assez rempli? Est-ce que l'Église avait encore besoin d'argent? Probablement. Je ne suis pas dans leur tête, mais j'extrapole, je paraphrase. Je fais de la théologie un peu en pensée ici, frères et sœurs. Les sacrificateurs ont offert de la part du peuple à l'Éternel des sacrifices qu'ils n'auraient pas offerts. Dieu l'a dit, qu'ils n'auraient jamais offert à des souverains humains, à des leaders humains, à des dirigeants humains, frères et sœurs. Et les actions de ce peuple traduisent leur manque de considération pour Dieu, comme je l'ai dit, leur manque d'amour, leur manque de respect pour Dieu, le manque de passion pour Dieu. Et aussi, ces agissements traduisent l'absence de crainte de l'Éternel dans le cœur de ce peuple. Et nous aurons compris pourquoi Dieu leur a dit péremptoirement au verset 10 qu'il ne prenait plaisir à aucun de ses sacrifices, frères et sœurs. Le fait est que Dieu préfère ne recevoir aucune offrande plutôt que de recevoir une offrande qui n'est pas à la mesure de sa dignité, à la mesure de sa grandeur, à la mesure de sa royauté. Voilà pourquoi dans le texte, il dit, je suis le grand roi. Je suis reconnu comme étant le grand roi, frères et sœurs. Dieu fait référence à sa grandeur, à sa dignité royale. Le peuple n'a pas traité Dieu à la hauteur de sa dignité, frères et sœurs. Précédemment, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, Dieu suggère, je dirais, Dieu suggère que les sacrificateurs ferment les portes du temple et n'allument plus en vain le feu sur son autel. Verset 10a, Malachie 1er. Vous pouvez voir aussi Ésaïe 1er, verset 11 à 15. Frères et sœurs, mes bien-aimés, disons-nous une chose très claire et très simple, à savoir, si nos amis, nos parents que nous aimons beaucoup et légitimement méritent notre considération, notre passion, notre respect, notre estime, à combien plus forte raison Dieu est encore bien plus digne de notre vénération, de notre passion, de notre estime, de notre considération, frères et sœurs. L'enfant de Dieu, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le fidèle, le croyant, ne devrait pas dépenser de tout son argent pour lui-même. Il ne devrait pas amasser les grosses sommes pour lui-même, pour sa sécurité propre, pour sa sécurité personnelle, et laisser Dieu sans un sou, et laisser l'œuvre de Dieu sans un sou. Ce n'est pas cela les prémices que Dieu attend de son peuple. Je m'en voudrais de ne pas le dire. Donner les prémices à Dieu, frères et sœurs, c'est lui donner la meilleure de nous-mêmes. C'est lui donner la meilleure de nos avoirs, frères et sœurs. Dans Proverbe chapitre 11, le verset 24, il est écrit: Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. En d'autres termes, l'oratoire, peuple du Seigneur, celui qui donne chichement à Dieu se prive de bénédiction. Et celui qui donne généreusement, grandiosement, largement à Dieu reçoit davantage. L'offrande des prémices était un acte de foi. L'offrande des prémices était un acte de libéralité. L'offrande des prémices était un acte d'action de grâce, un acte de reconnaissance, un acte de passion d'amour pour Dieu. De la même manière, l'offrande de la veuve de Sarepta, c'est un acte de passion, de conviction, de détermination, de courage. Il prit Dieu au mot. Il prit le serviteur de Dieu au mot. Je prie que Dieu vous fasse la grâce de continuer de me prendre au mot ce soir, particulièrement dans le cadre de cette série que Dieu vous envoie pour vous enrichir, frères et sœurs, mes bien-aimés. Croire en Dieu, aimer Dieu, avoir confiance en Dieu détermine le niveau de libéralité, le niveau de générosité du chrétien envers son Dieu et l'œuvre de son Dieu. Vous le verrez tout à l'heure, ce n'est pas tant une question de pourcentage. Il est plutôt question d'amour. Je développerai cela, ok? C'est promis, si Dieu veut. Il est plutôt une question d'amour, une question de joie, une question de reconnaissance, une question de don volontaire, une question de don par sacrifice, ou bien de don de sacrifice. On verra ça, si Dieu veut, dans les principes, justement. Donner à Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés, c'est une question de libre partage. C'est une question d'esprit de partage. C'est une question de retour d'ascenseur, du cœur du chrétien reconnaissant qui donne à son Dieu. C'est une question de cœur consacré qui donne à Dieu le meilleur de ce qu'il est et de ce qu'il possède. Voilà pour le complément par rapport à la séance de mercredi dernier. Pour aujourd'hui, l'oratoire, peuple du Seigneur, amis qui m'écoutez, nous allons regarder, comme je l'ai mentionné en introduction, donner à Dieu quelques principes bibliques. Le premier principe qui caractérise le fait de donner à Dieu, c'est un principe biblique, ce n'est pas une invention de votre serviteur, vous me connaissez. C'est un principe biblique qui s'appelle le principe de l'investissement. Ah, le principe de l'investissement. Donner à Dieu, c'est investir en Dieu. Donner à Dieu, c'est investir en Dieu. C'est investir chez Dieu. C'est investir dans le compte en banque de Dieu. C'est investir dans le système de placement de Dieu. Dans Luc chapitre 6, le verset 38, l'oratoire, peuple du Seigneur, il est écrit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. C'est ici, entre autres passages de l'Écriture, il y en a d'autres qui s'en viennent, si Dieu veut. C'est ici que nous commençons par trouver le premier principe biblique concernant le fait de donner à Dieu. Une bonne partie du contexte parle de générosité, parle d'aider le prochain, parle de donner. C'est ici que nous trouvons le principe de l'investissement, frères et sœurs. Ce principe dit d'investissement présente la manière dont Dieu récompense ceux et celles, les chrétiens et les chrétiennes, les croyants et les croyantes, qui cultivent le devoir spirituel de donner à Dieu. Qu'est-ce que Dieu donne, pasteur, en récompense à ceux qui lui donnent? Mais le texte le dit, Dieu donne une bonne mesure, une mesure serrée, une mesure secouée, pardon, et une mesure qui déborde. Si vous voulez comprendre ce que ça veut dire, une mesure serrée, une mesure secouée, une mesure qui déborde, pense à quand vous vous rendez à l'épicerie. Je n'y vais pas souvent, mais j'ai une idée. Et des fois, j'entends mes parents qui se plaignent de ça. Si vous voulez comprendre qu'est-ce que le texte dit ici quand il dit mesure serrée, secouée, déborde, pense à quand vous allez à l'épicerie. Avez-vous remarqué que parfois, surtout en contexte d'inflation, comme on est aujourd'hui, les détaillants, les producteurs, les fabricants, les manufacturiers, ils vous donnent des sacs vides. C'est-à-dire que ça se vendait quoi, exemple là? Ça se vendait à 20 dollars. Ça se vend toujours à 20 dollars, mais le sac est rempli d'air, est rempli de vent. Il y a un tout petit peu de contenu dans le sac. Donc, ces sacs-là ne sont pas serrés. Elles ne sont pas secouées. Elles ne débordent pas. Ce sont des sacs, des petits sacs-là. Imaginez n'importe quoi là. Ça peut être quoi? Moi, je ne suis pas tout bon là-dedans. Mais imaginez n'importe quoi qui peut être dans un sac là. Puis, ils ne descendent pas le prix. Parce que s'ils descendent le prix, s'ils baissent le prix, les consommateurs vont crier, ah, ils ne vont plus aller là, ils ne vont plus acheter ça. Fait qu'ils maintiennent le prix, les manufacturiers, hein, ils maintiennent le prix et ils diminuent la quantité. Tu achètes des sacs vides. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup d'exemples à vous nommer parce que ce n'est pas mon domaine là. Je suis très faible là-dedans, là. Mais vous avez une idée de ce que le texte dit quand il dit. Mais Dieu ne donne pas ces sacs-là. Dieu donne des sacs serrés, des sacs secoués, des sacs qui débordent. Mais vous comprenez déborder en même quand même. Si vous avez un petit problème avec serrer, secouer, mais déborde vient vous éclairer. Qui déborde, rempli jusqu'au cou des sacs débordants. Gloire à notre Dieu. Voilà ce que Dieu donne en récompense, frères et sœurs, à ceux qui donnent à lui. Lorsque Dieu récompense ses serviteurs et ses servantes, frères et sœurs, en raison de leur générosité à Dieu, en raison de leur libéralité à Dieu, eh bien, Dieu donne des bénédictions qui sont d'une mesure serrée et débordante, pas des sacs vides, pas des fausses provisions, pas des faux sacs remplis. C'est des sacs vraiment remplis, authentiquement remplis, réellement remplis, frères et sœurs, jusqu'au débordement. Ce que cela veut dire en réalité, l'oratoire, peuple du Seigneur, c'est que quand vous investissez la caille, bon Dieu, pour bon Dieu, dans l'œuvre de Dieu, vous recevrez habituellement au-delà de ce que vous avez espéré, exactement comme ça s'est passé pour la veuve de Sarepta. Il n'y a personne qui peut croire que la veuve espérait recevoir tout cela. Elle pensait peut-être à des provisions pour une semaine ou deux, mais vous avez vu, elle en avait reçu pour longtemps, dit la parole de Dieu, frères et sœurs. Lorsque nous pratiquons, vous et moi, ce devoir spirituel consistant à donner à Dieu et pour Dieu, eh bien, Dieu nous donne un débordement de grâce, un débordement de richesse, un débordement de bénédiction, frères et sœurs. De plus, nous le savons bien, il n'y a pas que ça. Lorsque nous investissons pour Dieu, ce que nous récolterons, frères et sœurs, en retour, durera par-dessus tout pour l'éternité. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà entendu parler de l'histoire d'un certain City Stud. City Stud, CTC point, T point. City Stud, frères et sœurs, mes bien-aimés, fut un grand athlète de nationalité anglaise qui a vécu dans les années 1800. City Stud a accepté le Seigneur comme son sauveur personnel alors qu'il était champion du monde de cricket. À la mort du père de City Stud, Stud a hérité, frères et sœurs, d'une rondelette somme de 29 000 livres sterling. C'est la monnaie anglaise, hein? La livre anglaise, OK? Pour l'époque, frères et sœurs, cette somme que Stud avait reçue en héritage à la mort de son père représentait une véritable fortune. Je ne peux pas trop vous dire à quel montant on pourrait le comparer, on pourrait comparer cette somme aujourd'hui, mais on savait qu'elle était importante vers les années 1800. L'histoire rapporte, frères et sœurs, que City Stud a résolu en lui-même qu'il ne voulait pas que cette fortune, ce sont ses mots, hein, que cette fortune encombre sa vie. Et alors, Stud a décidé de consacrer la somme, la rondelette somme, la cagnotte de 29 000 livres sterling au Seigneur. Chemin faisant, frères et sœurs, mes bien-aimés, le serviteur de Dieu, en parlant de Stud, il a fait un don de 5 000 livres sterling à un certain Hudson Taylor, qui lui fut un grand homme de Dieu des temps modernes, un missionnaire baptiste anglais, donc de la même nationalité que Stud, et qui a vécu entre mai 1832 et juin 1905. N'oubliez pas, il a donné 5 000 à Hudson Taylor. Par après, il a donné 5 000 livres également sterling à un autre grand serviteur de Dieu, en l'occurrence William Booth, que vous connaissez, le fondateur de la mission armée du salut. Oh oh, vous diriez qu'il a arrêté de donner. Là, il y a 10 000 qui sont déjà partis. Il lui reste quoi, 19 000? Il donne un autre 5 000 à Dwight Lyman Moody, hein, un célèbre prédicateur américain de son temps, pour aider ce dernier, pour aider Moody à partir, comme on dit, à débuter, si vous voulez bien, à commencer une œuvre missionnaire aux Indes. L'histoire rapporte, frères et sœurs bien-aimés, que Moody n'a pas investi cet argent aux Indes, puisque finalement, Moody n'est pas allé œuvrer dans ce pays comme il se proposait de le faire. Mais l'argent que le pasteur Moody avait reçu du Stud n'a pas été détourné pour autant. Et non plus, cet argent, frères et sœurs, ne dormait pas dans les tiroirs, dans les caisses, dans les banques. Au contraire, Moody a investi ces 5 000 livres qu'il avait reçus de City Stud dans un institut qu'il avait fondé à Chicago. Stud avait fait d'autres dons encore à d'autres œuvres, à d'autres hommes et femmes de Dieu. Ceci était moins connu que les trois que j'ai nommés tout à l'heure. Ce qu'on sait, c'est qu'à force de donner de ses 29 000 livres sterling, il lui restait seulement 3 400 livres sterling. Et l'histoire rapporte, frères et sœurs, que ces 3 400 livres qui lui restaient, des 29 000 qu'il avait reçus en héritage, il les avait remis à sa femme le jour de son mariage. Je pense que je vais terminer sur cette illustration, peut-être, on verra, si Dieu veut. Frères et sœurs, Madame City Stud, c'était un lot encore. On parle de City Stud comme un passionné de Dieu. Madame dit, c'était un lot encore. Dans la mesure où l'elfine by Madame dit, 3 400 livres ça qui était à le jour du mariage, l'histoire rapporte que la femme dit à son mari, on a demandé au jeune homme riche tout ce qu'elle avait. Une façon pour lui de dire, nous, on va donner tout ce qu'on a. Je ne suis pas en train de vous dire de donner tout ce que vous avez, non? Parce que je dis non. Je vous montre jusqu'où ça peut aller. C'est juste ça là, OK? Comparaison n'est pas raison, OK? J'enseigne là, j'illustre. Ce que vous devez retenir là, ce n'est pas que vous devez tout donner à Dieu là, ou que moi je dois tout donner à Dieu là, c'est pas ce que Dieu dit. C'est plutôt pour vous montrer où est-ce que ça peut aller là. L'histoire de conviction dont on parlait, l'histoire d'acte de foi dont on parlait, c'est ça, hein? C'est à ça que ça sert une illustration, OK? Frères et sœurs, madame, nous sommes l'autre encore. Je me permets de m'exprimer en vernaculaire parce que pour moi, c'est tellement comme je, important. Madame nous dit, mais on a demandé au jeune homme riche tout ce qu'il avait, une manière pour elle de dire, alors, comment garder les 3 400 quand tu me les donnes à moi, c'est encore à toi que ça appartient, on va le donner. Puis, frères et sœurs, ayant dit cela, Stud et sa femme donnaient ce qui leur restait au général Booth. Oh. Et alors, suite à ces dons-là, la famille Stud est partie s'installer comme missionnaire en Afrique. Et mes bien-aimés, la littérature, l'histoire rapporte que ces gens-là qui sont partis les deux mains vides en Afrique faire l'œuvre de Dieu ont été surabondamment bénis. Les dividendes de Dieu n'ont pas tardé à commencer à se manifester, frères et sœurs, dans leur vie. Monsieur et Madame Stud ont été bénis, disent-ils, au-delà de toute mesure, frères et sœurs. Ils rapportent qu'ils ont non seulement eu du temps pour consacrer à Dieu, ils ont eu du temps pour se consacrer à Dieu, mais également ils étaient matériellement bénis dans ce coin du monde où ils sont allés faire l'œuvre de Dieu après avoir tout donné à Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés. Ils ont eu, mes frères et mes sœurs, du temps à consacrer à Dieu, des amis, des contacts. Ils ont fait marcher l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, n'oubliez pas nous. Pasteur a dit pour l'église, bah, tout ça, non? Pour fidèle, bah, tout ça, non? En tout cas, je suis enregistré. Je suis enregistré. Voilà ce que je dis. J'essaie de vous montrer où est-ce que ça peut aller. Frères et sœurs, mes bien-aimés, la morale de cette histoire vraie, c'est ceci. Ne manquez jamais d'investir pour Dieu. Bon, là, on parle d'argent, mais vous savez que l'investissement pour Dieu ne se limite pas à l'argent. Le temps, c'en est un. La connaissance, les dons, c'en est un autre. Là, vu que le thème, la thématique, c'est l'argent. Alors, je dis argent, mais ce n'est pas que. Continuez à ne jamais négliger à l'oratoire d'investir dans l'œuvre de Dieu. Vous ne regretterez jamais, au grand jamais, non jamais, d'avoir investi pour Dieu. J'ai vu mon père et ma mère investir pour Dieu. J'ai vu mon père et ma mère investir pour Dieu. Mon père et ma mère pouvaient être malades. Mon père et ma mère pouvaient avoir des petits qui tabaillent au problème. Moi, c'était yon là-dedans, yo. Mon père et ma mère ne sont plus. Ils sont partis pareil, même s'ils sont investis pour Dieu. Je n'ai pas vu mon père et ma mère rouler en Mercedes, ni en Cadillac, ni en BMW. Ils n'ont même pas une voiture. Mais je les ai vus bénis. Je les ai vus épanouis. Je les ai vus joyeux. Je les ai vus heureux. Je les ai vus satisfaits dans le Seigneur et par sa grâce. Je ne sais pas pourquoi. Moi qui suis un homme timide, je puisse parler d'un sujet aussi sensible. Mais le Seigneur, le grand Dieu souverain, doit savoir pourquoi. Frères et sœurs, je vous encourage à continuer à investir pour votre Dieu. Puisque en investissant pour Dieu, vous approfondissez votre relation avec Dieu, d'une part, et d'autre part, Dieu vous bénira abondamment. Pas occupé moun kap joure la dîme, kap joure offrande, kap joure pasteur. Oui, gen pile pasteur fait moun pa vle payer la dîme, c'est vrai. Y a pas des offrandes ceci, offrandes cela, offrande David, offrande André, offrande Jacques, offrande Pierre. Oui, gen pile homme leader qui fait moun père béni, empêche moun béni. Parce que moun vin pe bay. Je vous en prie, à l'oratoire, continuez à faire confiance aux paroles de Dieu. Il est déjà 59. Le temps pour moi donc d'arrêter dans la grâce du Seigneur. Je vous promets d'y revenir. On va continuer à jaser de ce sujet de la part du Seigneur. Entre-temps, soyez bénis. Si vous avez des questions, c'est le temps. Vous avez des expériences à partager, des expériences de joie, de bénédiction à partager, c'est le temps. Moins 5 minutes avant qu'on puisse clore la séance. Soyez bénis dans la grâce du Seigneur. Laissez-moi arrêter. Et s'il te plaît, aujourd'hui, je n'avais pas fait la fois dernière, l'enregistrement à la gloire de notre Dieu.